Le pouvoir possède la radio et la télévision.
On ne peut pas savoir où on est ni où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elles les samedis à 12h sur Radio G avec Polémix et la voix off.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Bonsoir, vous posez votre question.
Bonsoir messieurs, je voudrais savoir si à 6h heure française, s'il y a conflit, est-ce que ce serait une guerre mondiale? Et si oui, est-ce que ce serait éventuellement la fin du monde?
La guerre n'est toujours qu'un autre moyen de faire de la politique, comme dit Clausewitz. Un peu de cohérence, quoi. Comme j'ai condamné la guerre des Américains en Irak, comme j'ai condamné la guerre de la France en Libye, bah je condamne sans ambiguïté la guerre de Poutine et de la Russie en Ukraine. Parce que c'est de la cohérence intellectuelle. Et dire, ah oui, mais là, c'est pas pareil que là. Et pas... Si, c'est pareil. C'est pareil. Attention, effectivement, à ce concert, vous voyez, où tous les médias, tout d'un coup, ah mon Dieu, il y a des méchants, il y a des gentils, etc., sans s'interroger sur les autres conflits.
C'est une guerre.
Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off. Mars 2022, putain, l'Ukraine, c'est la guerre en Europe. C'est une émission très spéciale aujourd'hui dans le sens où elle a été bricolée à la hâte. Et pour tout vous dire, on était à deux doigts de vous parler d'autre chose que l'inexcusable agression impérialiste que la Russie de Poutine a commis contre l'Ukraine. J'ai demandé à notre ami André, le prof d'histoire géo, un exposé sur les raisons historiques qui pourraient peut-être éclairer l'actuelle agressivité des Russes. Et même si des raisons il y en a, car l'Occident et son OTAN ne se sont pas toujours montrés amicaux avec la Russie, même si elle est plus communiste depuis 91, je me suis dit qu'il était trop tôt pour écouter André expliquer l'histoire de cette région du monde qui connaît les guerres et les souffrances depuis toujours, contrairement à nous, Français de 2022. Enfin, pour la plupart d'entre nous en tout cas. André nous racontera donc très prochainement cette histoire, mais pas maintenant, c'est pas le moment. Pas donner le sentiment de trouver des excuses à la guerre impériale de Poutine. Et finalement, donc, j'ai demandé en urgence à un autre prof d'histoire géo de notre équipe, que vous connaissez bien, notre ami Cédric, de venir nous dire ce qu'il peut expliquer en classe à ses élèves au sujet de cette guerre. Et puis, en toute fin d'émission, on retrouvera notre ami Philippe Arnaud avec l'une de ses remarques sur les médias. C'est parti pour une heure de radio bricolée dans l'urgence, à la guerre comme à la guerre. Salut Cédric.
Salut.
Je te remercie d'être là, mon copain. Alors, tu es professeur d'histoire géographie, tu enseignes au lycée Descartes à Tours, en région centre. Et aujourd'hui, je voulais peut-être un peu laisser tomber le décorum de cette émission. Voilà, monsieur le professeur d'histoire géographie, mais en fait, c'est en tant que mon ami, mon pote, un être humain en qui j'ai toute confiance, que je t'ai demandé de venir ici. Je suis, comme tout le monde, complètement désemparé par ce qui se passe en Ukraine, ne sachant qu'en penser, si ce n'est l'empathie et la tristesse qu'on ne peut qu'avoir pour ces pauvres gens qui courent sous des bombes et des balles et qui voient des chars arriver dans leur pays. Enfin, c'est la guerre, quoi. Et avec les autres copains profs d'histoire géo, André, Philippe, on a réfléchi à tout ça en se demandant mais pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Parce qu'il y a toujours une raison aux choses. Voilà, on s'est beaucoup dit quand même que depuis la fin de la guerre froide, l'Occident, ce qu'on appelle l'Occident, a pas toujours été bienveillant vis-à-vis des Russes et qu'aujourd'hui, il se passe des choses épouvantables. Bon, mais en fait, je me disais, voilà, est-ce le moment de développer ce genre d'analyse? Parce qu'en fait, là, il y a des drames humains. J'étais presque à deux doigts, d'ailleurs, de ne pas faire d'émission du tout. Et puis, j'ai pensé à toi qui es toujours au front dans l'enseignement, face à des élèves de lycée. Je me suis dit, mais toi, Cédric, mon ami, est-ce que tu en parles à tes élèves de l'Ukraine, de ce qui se passe, et qu'est-ce que tu leur en dis? Nous sommes au moment de cet enregistrement le samedi 5 mars. T'en parles à tes élèves ou est-ce qu'ils te posent spontanément des questions?
C'est vrai que c'est un sujet qui parcourt les couloirs du lycée, comme partout en France. Je pense qu'effectivement, on est tous sensibles au drame humain qui est en train de se jouer, et les enfants autant que les autres. Et au-delà de l'émotion, c'était effectivement d'essayer de porter un discours un peu historique et géopolitique, notamment avec les terminales, avec qui j'ai une spécialité histoire, sciences politiques et géopolitiques, et essayer de comprendre un petit peu les choses, au-delà de voir le constat des images. On a un thème qui s'appelle « Faire la guerre, faire la paix ». C'est justement essayer de replacer ça à travers une histoire de la guerre et une histoire de la paix. Je leur ai proposé un petit exercice de 2 heures. D'abord, j'ai commencé par faire une sorte de petit historique de la Russie et de l'Ukraine et des rapports conflictuels entre les deux. Et le premier obstacle qui s'est présenté, c'est de savoir jusqu'à quand on remonte. Parce que l'un des arguments qui est mis en avant par Vladimir Poutine, c'est effectivement que le berceau de la civilisation russe, en fait, bah, c'est Kiev, hein, c'est la principauté de Kiev et Moscou. Et donc, la terre qui est aujourd'hui ukrainienne serait russe. Je leur ai dit voilà, de faire attention à ce genre d'argument, parce qu'en ce cas-là, les Italiens vont revendiquer la Gaule, et puis voilà.
On pourrait rendre l'Alsace-Lorraine aux Allemands.
Voilà, voilà. Je veux dire, ce genre d'argument, vous voyez, qui remonte à des époques antidiluviennes, en disant « Ah, cette terre a vu le berceau de notre civilisation, je sais pas quoi. » On peut justifier tout et n'importe quoi.
Ma tentative d'analyse de la situation a oscillé entre deux trucs, et je me dis « Est-ce que c'est pas deux trucs en même temps ?» Vladimir Poutine est-il, comme nous le disent les médias dominants et comme les faits semblent aussi le démontrer, dans une volonté impérialiste de la Russie, c'est-à-dire la Russie éternelle, voilà, ces gens ont quand même été l'Empire des Tsars, puis la puissante URSS, on les a humiliés dans les années 90, et puis, à force de pas forcément toujours les respecter, il y a un chef de guerre qui s'appelle Poutine qui est arrivé et qu'on trouve pas sympathique, avec raison d'ailleurs. Poutine est-il juste un impérialiste? Est-ce que les Russes ne sont que ça? Ou y a-t-il aussi cette menace larvée, même si les Américains et les Occidentaux ont trouvé ça chaud, que l'Ukraine rentre dans l'OTAN et que Poutine se retrouve avec des missiles occidentaux sur ses frontières? Et en fait, cet argument semble peu tenir. Cet argumentaire-ci de « ils ont peur des missiles de l'OTAN, donc des Américains », tient de moins en moins.
Un régime autoritaire, comme l'est le régime de Poutine depuis les origines, et qui là, du fait de la guerre, tourne à une vraie dictature totale, une démocrature, on passe là à une dictature totale où tout ce qui pouvait apparaître comme des contre-pouvoirs possibles, alors qui étaient déjà muselés, voire empoisonnés avec des thés étranges, voire une balle entre les deux yeux, les contre-pouvoirs qui pouvaient exister sont en train de disparaître complètement là, à l'aune de la guerre, comme ce qui arrive dans toutes les guerres. Hein. De toute façon, tout pays qui rentre en guerre voit la démocratie disparaître. Hein. La France de 1914, voilà, ou de 39, a fait disparaître la liberté d'expression, la liberté de la presse, etc. Bon, ça, c'est un truc classique.
C'est vrai qu'on a fait récemment une émission sur ce qu'était la France de 1938 après les décrets-lois Daladier. Bon, c'était pas hyper démocratique.
Mais de fait, Poutine peut invoquer un certain nombre de faits historiques qui résonnent aux oreilles d'un certain nombre de Russes. Une dictature, telle qu'elle soit, ne peut pas tenir si elle ne s'appuie pas sur une minorité plus ou moins grande, si ce n'est une majorité de la population. Il y a une partie de l'opinion publique russe qui est sensible à un certain nombre d'arguments qu'il utilise, notamment celle de cette menace d'un Occident aux frontières mal définies, qui en voudrait en permanence à la Russie et dont le but, in fine, serait de faire disparaître cette Russie. On ne peut pas comprendre la psyché d'un Poutine et d'une partie de l'opinion publique russe si on ne comprend pas et si on ne se rappelle pas, bien sûr, les traumatismes liés notamment à la Seconde Guerre mondiale, 27 millions de morts, et le jeu trouble des Occidentaux avec Hitler, qui allait faire le ménage, etc. Et ça, c'est quelque chose qui résonne à l'oreille des Russes aujourd'hui. Le fait que, quand les Allemands rentrent en URSS, ils trouvent le soutien d'une partie de la population ukrainienne, biélorusse et balte, qui voit dans un premier temps l'arrivée des nazis comme des libérateurs, parce que c'est quand même des gens qui ont subi le joug de la dictature stalinienne. plus en Ukraine, cette famine de 1921, alors volontairement mise en place ou fruit de la guerre, hein, le fameux Holodomor, qui a fait qu'une partie de l'opinion publique ukrainienne et une partie des Ukrainiens ont accueilli effectivement à bras ouverts les troupes allemandes. Bon, très vite, ils ont compris de quelle nature était le régime et ils sont rentrés en résistance et ils ont été victimes du nazisme autant que les Russes. Mais ces images-là qui ont pu être mises en avant par la propagande nazie de la libération des peuples ukrainiens, etc., lorsqu'ils arrivent en 41, là aussi résonnent dans la mentalité russe. Donc il y a ça que Poutine a su mobiliser, réactiver et qui lui assure le soutien d'une partie de la population. Ensuite, effectivement, cette histoire d'agrandissement de l'OTAN, c'est un fait. Après la chute de l'URSS en 91, la Russie est très affaiblie. L'OTAN pousse ses pions pour s'assurer que sur un long terme, il n'y aura pas une renaissance de la puissance russe. Donc c'est là qu'on intègre les pays baltes, la Pologne, etc. Sauf que, dès le début des années 2000, lorsque se pose la question de l'intégration de l'Ukraine, quand il y a un président, notamment Obama, qui veut pousser le pion en disant « on va leur mettre la pression », les Européens, et c'est pour ça que j'hésite toujours à employer le terme des Occidentaux, parce qu'il y a des intérêts divergents. Hein. Les Européens, notamment l'Allemagne et la France, freinent des cas de fer en disant « attention, ne passons pas la ligne rouge, ça risque de réveiller un nationalisme agressif du côté de la Russie, on n'a pas besoin de ça ». Et finalement, les États-Unis ont accepté ça.
On n'a pas besoin de l'Ukraine dans l'OTAN.
On n'a pas besoin de l'Ukraine dans l'OTAN, parce que c'est chaud, ça ferait monter en tension quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Le fait qu'en Europe centrale, les Occidentaux ont pris l'avantage, voilà, c'est un fait, on a pris l'avantage économiquement avec la poussée de l'Union européenne, militairement avec l'OTAN, ça suffit.
C'est très délicat ce que je vais dire, parce que ça semble pas un moment approprié pour le dire, mais en 91, quand s'effondre l'URSS et que la CEI, hein, Communauté des États Indépendants, que voilà, la Russie et les autres, il y a une promesse de l'OTAN, donc américaine, que l'OTAN ne poussera pas plus ses pions à l'Est qu'il ne l'était en 91.
Mais l'occasion était belle quand même. L'occasion était belle. Quand on réfléchit en termes de puissance, on va dire que c'était pour une occasion historique de mettre un verrou sur la Russie.
Il y a eu une promesse quand même américaine ou occidentale qui n'a pas été respectée.
Ouais, c'est toujours le problème. Parce qu'en 1991, il y avait encore l'idée que la Russie, au-delà de l'URSS, c'est-à-dire la puissance au-delà de l'idéologie, composait toujours une menace. Or, depuis le XXIe siècle, très clairement pour les États-Unis, la menace numéro un, c'est plus la Russie. La menace numéro un, c'est la Chine. Et d'ailleurs, on voit comment les Américains sont en train de retourner leur appareil militaire, diplomatique, sur l'Asie de l'Est. Et c'est là qu'ils mettent leur bille. C'est-à-dire que jusqu'à cette crise-là, les Américains étaient en train de retirer leur bille. Alors, ça a été particulièrement criant à l'époque de Trump, où il disait que l'OTAN ne servait plus à rien. Macron avait même parlé que c'était en mort clinique, que voilà, c'était fini. En gros, on avait l'avantage, on savait que les Russes ne pourraient pas aller au-delà de la Pologne et des pays baltes, point barre, et on s'en fout. Ils nous fournissent de gaz, voilà, à la limite, on vit en voisinage un peu tendu, mais on discute ensemble. Et les Américains voulaient se concentrer sur la Chine. Sauf que là, la crise actuelle est en train de refaire basculer les États-Unis avec la nécessité pour eux de s'engager, y compris militairement, pour défendre leurs alliés. Hein, dans l'OTAN, on ne sait pas où s'arrêtera Poutine, mais on peut espérer que jamais il s'attaquera aux pays baltes ou à la Pologne, parce que là, du coup, les États-Unis seront pieds au mur. Ils ne peuvent pas laisser tomber des alliés. Enfin, s'ils laissent envahir des alliés, ils seront dans l'obligation militaire de réagir. Enfin, ils ne pourront pas faire autrement. Donc là, je pense Poutine ne franchira pas ce cap. Il n'est pas fou, contrairement à ce que disent les médias, parce qu'on a tout, hein, fou, psychopathe, etc. Alors, je pense qu'on peut traiter M. Poutine de tout, hein, de dictateur, etc., mais pas de fou. Ça, c'est clair, pas de fou. Loin de là. C'est quelqu'un qui a une pensée... alors, on peut juger, effectivement, que l'usage de la force n'est pas légitime, etc., mais de dire qu'il est fou, non. Donc, de voir que tout le discours psychologisant, etc., ou le renvoyer à des dictateurs du passé, Hitler, Staline, etc., ça n'a guère de sens. Faut voir au présent ce que ça donne. Donc, l'idée, c'est, avec les élèves, de rappeler ça, pour comprendre, en fait. On n'est pas dans l'idée de juger. On comprend comment une partie de l'opinion publique russe peut être amenée à soutenir une intervention militaire de la sorte. D'autant plus que... Alors là, c'est la stratégie assez classique, c'est que Poutine présente ça comme une guerre défensive et non comme une guerre offensive. L'idée étant de protéger les populations russophones des républiques autoproclamées de l'Est de l'Ukraine, en disant que, en gros, ils vont défendre leurs frères russes qui seraient sous le joug du régime ukrainien, et que c'est au nom de cette défense-là qu'ils ont mené une grande offensive. Donc là, c'est le jeu de renvoyer toujours offensif-défensif. Quand vous êtes dans une guerre offensive, c'est beaucoup plus dur à justifier que dans une guerre défensive.
Comparaison n'est pas raison, mais ce que tu dis là, aller protéger nos frères russes qui sont dans un autre pays, ça sent un petit peu les Sudètes quand même.
Ça fait les Sudètes en Allemagne, c'est le truc classique. C'est la situation historique de laquelle ça se rapproche le plus, c'est effectivement ce côté-là. Nous avons des frères qui sont oppressés par un pays extérieur, nous mettons une pression diplomatique, et comme ça suffit pas, nous mettons une pression militaire. En fait, sous prétexte de défendre ces frères-là, on lance une grande guerre offensive dans le but d'éradiquer le pays qui est en face, quoi. Point barre. C'est une stratégie assez classique, mais ça peut fonctionner auprès d'une partie de l'opinion publique, surtout avec une pression médiatique très forte. Donc, moi, ce que j'invite à mes élèves à faire, c'est prendre compte de tout cela. Ensuite, c'est de prendre compte que la guerre n'est toujours qu'un autre moyen de faire de la politique, comme dit Clausewitz.
Il y a aussi une différence culturelle majeure entre nous, Français par exemple, et les Russes, c'est que ces gens-là connaissent la guerre depuis, j'allais dire, toujours. En tout cas, de 1917 jusqu'à nos jours, leur histoire est parsemée de guerres, notamment une guerre d'extermination qui est lancée contre eux en 1941 par l'Allemagne nazie, avec effectivement précédemment un jeu assez trouble des puissances occidentales. Ce pacte de non-agression que la France et l'Angleterre signent avec Hitler en 1938, un an avant que les nazis ne proposent le pacte germano-soviétique de 1939. Et quand tu as vécu une guerre d'extermination qui t'a coûté effectivement quasiment 30 millions de personnes, tu peux comprendre que t'en aies des souvenirs et que tu sois un peu tendu. Or, nous, occidentaux, j'ai parfois pour railler, j'ai envie de dire, les gens de l'île aux enfants, nous qui n'avons pas connu la guerre, qui sommes nés 25 ans, pour ce qui me concerne, après la fin de la seconde et même bien longtemps après la fin de celle d'Algérie. La France, depuis, a fait la guerre, mais avec une armée professionnelle. Va-t-on se demander au cours de cet entretien ce que fait la France depuis des décennies en Afrique, ou ce qu'elle a fait en 2011 en Libye. On a quand même, Sarkozy à l'époque, unilatéralement a déclenché quand même un conflit. La France a fait la guerre à la Libye en 2011, la guerre de guerre, avec aussi des civils et des missiles qui tombaient dessus. Je voudrais en revenir à ces deux arguments majeurs. Est-ce que cet argument de Poutine et les Russes ont peur que l'Ukraine ne devienne une base de l'OTAN, est-ce que ça tient, cet argument?
Non, là, ça tient plus depuis les années 2000. Très clairement, les Européens ne veulent pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Enfin, voulaient, parce que là, du coup, les situations vont peut-être changer. Mais ils ne voulaient pas, parce qu'ils savaient que c'était une ligne rouge à ne pas franchir. Et les Américains voulaient se concentrer sur l'Asie et le danger chinois. Pour eux, le danger, c'est la Chine, c'est plus la Russie.
Donc, il reste le deuxième argument qu'on entend dans les médias dominants et qu'en fait, on est obligé de constater. S'agit-il donc, en fait, d'une pure volonté impériale de la part des Russes?
Les arguments que Poutine met en avant sont fallacieux. C'est-à-dire, l'extension de l'OTAN n'était pas à l'ordre du jour. Que le régime d'Ukraine soit une dictature fasciste, voire nazie, alors j'entends encore là Zelensky, président ukrainien, des confessions juives, qui parlait en hébreu, qui s'adressait directement aux médias israéliens, parce que Zelensky est de confession juive. Je ne pense pas que si l'Ukraine était un île nazie en majorité, ils aient élu un président juif qui n'hésite pas à parler en hébreu à Israël pour lui demander de l'aide. Donc là aussi, on a un argument fallacieux. Que dans l'armée ukrainienne, il y ait eu des groupements néo-nazis, oui, il y en a eu. Mais bon, dans l'armée française, par exemple, on a vu lors des actualités récentes qu'il pouvait y en avoir, mais ça n'en fait pas une armée de néo-nazis prêts à aller attaquer la Russie. Enfin, ça n'a pas de sens. Enfin, moi, personnellement, je vois ça comme une vision un peu impérialiste de la part de Vladimir Poutine, parce que son régime, peut-être, est fragilisé économiquement, socialement, tient par la peur. L'une des stratégies classiques, déclencher une guerre extérieure pour unir le pays derrière son dirigeant, on nous l'a déjà fait, enfin, c'est pas nouveau. Et donc, que ça soit l'un des éléments qui ait présidé à son choix de déclencher cette guerre, parce que c'est son choix, ça ne m'étonnerait pas. Et aussi parce qu'il a eu peut-être l'opportunité d'un moment X. Les Américains sont pas dans le coup, les Anglais sont empêtrés avec leur histoire de Partygate, etc. Nous, on est en campagne présidentielle, l'Allemagne, ils sont entre deux chanceliers, le nouveau, bon, il faut qu'il prenne ses marques. Peut-être a-t-il vu là une fenêtre de tir pour transformer en fait un conflit interétatique qui dure depuis 2014. Parce que depuis 2014, il y a la guerre déjà. Il y a déjà une guerre depuis 2014. Depuis 2014, les provinces de l'Est de l'Ukraine ont fait sécession. Ce sont des sécessionnistes russes.
C'est le fameux Donbass.
C'est dans le Donbass, effectivement. Et vous avez deux régions qui ont fait sécession, qui vivent en quasi-autonomie, qui sont soutenues en sous-main par la Russie, des fois même pas en sous-main, hein, carrément, fourniture d'armes, de cadres militaires, d'argent, etc. Et il existe depuis 2014 un équilibre précaire qui est sans cesse rompu par une offensive soit de ces milices pro-russes, soit du gouvernement ukrainien qui veut reconquérir son territoire, et qui fait qu'on est dans une guerre larvée, de basse intensité, qui a fait quand même 14 000 morts depuis 8 ans. Alors vous allez me dire, une journée de Première Guerre mondiale, c'est 20 000 morts. Mais on est dans une situation instable. Et là, que profitant d'une circonstance qu'il a jugée favorable, il veut y pousser l'avantage en disant « Bon, bah écoutez, mes frères russes, boum, on arrive, croc, d'accord ? On vient vous protéger, et puis on va protéger la Crimée. » Moi, au début, j'ai pensé que son objectif de guerre, parce que quand on mène une guerre, et on a toujours des objectifs, c'était de mettre en place un continuum terrestre, en fait, entre la Crimée, qui a été annexée en 2014, ses républiques de l'Est, et la Russie. En fait, faire un espèce de couloir qui lui permette d'avoir un accès complet à la mer Noire, et d'unifier cette partie-là du territoire. En gros, de leur coller une grosse volée, et de leur dire, bon bah écoutez, ça c'est à moi, on annexe. Les Européens et l'OTAN, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Dire, c'est pas bien. C'est une transgression du droit international, effectivement. Attaquer un pays voisin dont les frontières ont été reconnues internationalement, c'est un acte de guerre. Mais que de fait, on peut rien faire. Du fait de la puissance nucléaire des Russes et du fait de leur position au Conseil de sécurité de l'ONU qui permettent de mettre des veto sur toute décision. Et qui s'est dit, ouais, ça, c'est, allez, pof, on va le faire. Et là, on a un objectif de guerre réel. Voilà, un objectif limité. On prend un morceau de territoire. Alors, on peut dire que c'est pas bien, que c'est machin, mais ça correspond à quelque chose de rationnel. Ce sont des zones qui sont peuplées majoritairement de populations russophones. Ça veut pas dire qu'ils veulent être alliés à la Russie. Attention. Mais que potentiellement, ils sont plus proches des Russes que des Ukrainiens, d'un point de vue culturel, etc. Là, vu la tournure à laquelle prend la guerre, on peut s'interroger sur le but de guerre. Est-ce que c'est pas de complètement annexer l'Ukraine, ni plus ni moins, ou bien d'y placer un gouvernement fantoche à sa solde, comme en Biélorussie, voilà, mettre un pantin à sa tête, un béni oui-oui qui sert ses intérêts. Personne n'en sait rien, si ce n'est Vladimir Poutine lui-même. Je crois que personne n'en sait rien. Tout simplement, quel est son but véritable de guerre, c'est ce qui inquiète aussi. Personne n'a de lisibilité exacte sur ses objectifs. Je pense que dans les hautes sphères de la diplomatie, les gens doivent savoir de quoi il en retourne. Mais pour le grand public, voilà, auquel nous appartenons tous, à notre modeste échelle, même si on s'intéresse, on écoute, on regarde, etc., on n'en sait rien. Jusqu'où il veut aller, j'en sais rien. Donc impérialisme, oui. Mais en tout cas, je pense qu'il faut clairement dissocier quand même le peuple russe et son dirigeant. Dans une démocratie, on n'est déjà pas totalement responsable de nos dirigeants. Alors dans un régime, une démocrature comme l'était la Russie, et maintenant aujourd'hui, là, depuis une semaine, on peut vraiment parler de dictature. Voilà, on va dissocier le tout.
J'ai entendu qu'il y a des manifestations de Russes par milliers et des milliers d'arrestations en Russie. Donc oui, bien sûr qu'on va pas mettre tous les Russes dans le même sac. Ce serait stupide.
Des gens courageux, parce que moi, je suis pas sûr que si j'étais russe, voilà, là, je peux parler librement, je peux dire, ouais, Macron, ça, voilà, je suis contre, nanana. Je sais que je vais rentrer chez moi, je vais dormir et je vais pas avoir un flic en bas de chez moi qui va venir me chercher. En Russie, il faut quand même avoir les coronets quand même pour y aller. Hein.
Troupie ces machines de guerre, des tonnes et des tonnes de fer. Reposée prête à rugir, prête à rougir, la terre qu'on génère contre con, génère une rime en on. Prévert nous l'a pourtant bien dit, quelle connerie. La guerre, sournoiserie nucléaire, sous-marin de poche revolver, bonbon napalm, goût chimique, panoplie de sapeur panique. On n'arrête pas l'imaginaire pour se faire sauter la cafetière. 100 fois de quoi s'envoyer en l'air, de quoi descendre le soleil, de quoi éteindre le ciel. C'est moi le plus fort nananaire. Quel pâté on vous a mis? Des tonnes et des tonnes de fer dans la chair, ennemi. Mais tapez la chair, confrère, vous n'étiez pas mal non plus. Cette fois c'est la terre des derres. Avant la prochaine, bien entendu, les huiles ainsi s'en vont signant des traités aux petits oignons. Après avoir saigné à blanc, se partage terre et pognon, trace des frontières bidons. Secret de nos piteux états, l'argent est roi et marche au pas. Tambour insoufflé, frais tirelire. Une, deux et trois. À quatre, on tire dans le tas.
La guerre, la tordue. C'est un acte de guerre, c'est inqualifiable. Poutine est bien ce qu'on en voit. Hein. KGB, assassin, oligarque. Quelqu'un dont on n'a pas envie de se faire un ami, en fait, parce que de toute évidence, on ne partage pas les mêmes valeurs. Bon, voilà, Poutine est ce qu'il est. Mais de se dire, bon, bah, c'est un chef de guerre, et puis l'Occident, qu'est-ce que ça veut dire l'Occident? Mais je pense notamment à ces années 90. Les Russes ont été humiliés quand même. Hein. Ils étaient dirigés par Yeltsin l'alcoolique, leurs entreprises étaient vendues au COPEC symbolique. Ils avaient eu tout faux, perdu l'URSS, perdu leur puissance. Ils s'étaient compromis dans le communisme. J'allais dire, on s'est foutu de leur gueule pendant quand même une bonne décennie. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, un type bombe le torse et veut redonner de la dignité à sa nation. Enfin, voilà.
C'est un discours qui marche.
C'est là que je marche sur des œufs, parce que je dis, je n'ai pas l'âme slave, j'ai pas d'icône orthodoxe. J'ai encore moins de posters de Poutine au-dessus de mon lit. Ce type ne m'est pas sympathique. Commet un acte de guerre inqualifiable, machin. Mais j'essaye malgré tout encore un petit peu d'essayer d'imaginer la situation depuis la fenêtre de certains Russes. Parce que ce serait stupide, comme tu viens de dire les Russes. Ils sont comme si, mais est-ce qu'on peut se permettre le luxe de rappeler ces faits historiques que tu as mentionnés, d'essayer de comprendre pourquoi ils font ça? Ça ne veut pas dire cautionner, mais essayer de comprendre une mécanique des choses.
Les défis de la Russie aujourd'hui, ce n'est pas de manger un morceau d'Ukraine ou la totalité de l'Ukraine, etc. Les défis de la Russie aujourd'hui, c'est quand même qu'ils ont le PIB de l'Espagne. Le PIB de l'Espagne. Un pays qui est 17 fois grand comme la France. Qu'ils ont une démographie absolument catastrophique. Chaque année, c'est moins 1 million de Russes par déficit naturel. Ils font plus de mômes. C'est une économie exsangue qui repose uniquement sur les exportations de matières premières, qui ont perdu leur technologie. Je veux dire, les défis de la Russie aujourd'hui, ce sont des défis technologiques, démographiques, sociaux. Il y a une très grande pauvreté en Russie. Et c'est pas d'aller conquérir l'Ukraine. Enfin, ça va leur coûter une fortune. Faire la guerre, ça coûte cher. Un, ça coûte très cher directement, parce qu'il faut la financer. Et ça va leur coûter très cher en termes de sanctions économiques, financières, qui va aggraver la crise sociale qui frappe le pays. Et la crise sanitaire, parce que leur vaccin Spoutnik, c'est de l'eau. Hein. Donc, le tout réuni, franchement, est-ce que dans un contexte de crise comme ça, globale du pays, est-ce qu'un conflit n'est pas un moyen de détourner un petit peu le mécontentement populaire qui est tenu sous le feu grâce à un régime autoritaire? On peut se poser la question. Une stratégie assez classique. Donc, enfin, moi, ce que je fais avec les élèves, c'est toujours présenter un discours très nuancé. Mais j'essaye aussi qu'ils prennent les informations qu'ils reçoivent en pleine gueule avec du recul. Par exemple, d'écouter les vocables qui sont utilisés. On dit qu'il y a 1,2 million d'Ukrainiens qui ont déjà quitté leur pays, hein, qui fuient les combats. Et là, on parle de réfugiés. à juste titre, sont des réfugiés hein, qui fuient la guerre. Et par exemple, on voit la maire de Calais, UMP, accueillir à bras ouverts en disant qu'ils sont les bienvenus, etc. Donc on parle de réfugiés, mais quand on voit un pauvre Gus qui s'en va du Congo, d'Érythrée, du Centrafrique, du Soudan ou de l'Éthiopie, qui sont aussi des pays en guerre, que les gens fuient parce que il y a aussi des bombes, etc. Alors c'est pas des armées aussi officielles que l'armée russe, mais ils fuient les combats. Eux, ce ne sont pas des réfugiés, ce sont des migrants qu'on essaie de rejeter à l'eau et que s'ils n'arrivent pas à traverser la Méditerranée, ce serait plutôt bien. Donc, qu'on se sente une solidarité et un accueil pour les pauvres Ukrainiens qui fuient la guerre, c'est humainement tout à fait respectable et c'est bien. Mais le deux poids, deux mesures, il doit poser question aussi à notre, à notre vision de ce qu'est un réfugié et ce qu'est un migrant. Quoi.
C'est bien que tu passes par là, Cédric, et tout lecteur du monde diplomatique que je sois, etc. Je suis dans ce processus que tu viens de mentionner, c'est que c'est vrai que t'as beau avoir de l'empathie et te dire « Oh les pauvres !» Quand ça se passe en Afrique, ça me semble en fait loin. Du coup, je constate aussi la limite de mon humanité, de mon empathie, c'est que d'un seul coup, là, je me sens très concerné parce que ça se passe sur le continent européen. Excuse-moi, je le dis brutalement. D'ailleurs, ça me rappelle de ces relents qu'il y avait dans les années 90 quand il y a eu la guerre en ex-Yougoslavie, où je me disais « Ah merde, mais c'est des Blancs et c'est chez nous. C'est pas des Rwandais, c'est pas des Congolais, c'est pas de l'autre côté des mers, là-bas, des gens de pas de notre couleur. Putain, c'est à nos portes. Bah, c'est pas très glorieux, mais je me rends compte aussi. Je me dis, bah oui, j'ai les boules là, plus que d'habitude, en fait, parce que c'est à nos portes.
Et aussi parce qu'on a des images, parce que, effectivement, ça engage un pays contre lequel on a des griefs, alors que les affaires africaines, on n'y comprend rien, ou bien on est un peu mouillé dans les histoires en ayant mis un peu d'essence, voire lâché l'allumette sur certains conflits.
On n'a pas décolonisé nos esprits non plus, et puis malgré tout, de manière toujours plus ou moins subliminale ou consciente.
C'est toujours là, se bat toujours. Hein.
Oui, et puis c'est toujours un peu notre empire aussi. Enfin, voilà, est-ce qu'on trouve que ce que fait Monsieur Bolloré là-bas est si dommageable que ça ? On reste dans un logiciel colonial, hein, j'allais dire post-colonial, mais colonial tout court, en fait.
Ça nous interroge sur notre conscience et sur notre empathie. Sur notre conscience des drames humains et sur l'empathie. Et effectivement, il n'y a pas de hiérarchie à avoir entre un Ukrainien qui fuit la guerre et un Congolais qui fuit un pays. Je vous rappelle que quand même, la République démocratique du Congo, si on prend la période après le génocide au Rwanda, si on prend après 1994, c'est 4 millions de morts quand même hein, par la guerre. Hein. Ah bah tiens, bizarrement, les gens, ils veulent s'enfuir du Congo. Bah oui, bah tu m'étonnes, John. Quand t'as tout l'Est du pays qui est perclus de chefs de guerre, qui commettent des crimes atroces, alors évidemment, c'est pas avec des chars, etc., mais c'est à la machette et puis au fusil, etc., où ils massacrent des villages entiers, où les gens fuient, sans parler des crimes de Boko Haram, etc., où les populations fuient des zones qui sont ravagées par des terroristes. Et là, quand ils débarquent chez nous, ah mon Dieu, non, c'est des migrants, attendez, les papiers, les machins, les trucs, et puis 6 mois dans la Méditerranée, à la limite, bon, voilà, on va verser une larme, et puis ensuite, basta, quoi. On s'en fout, d'accord, on s'en fout des milliers qui se noient chaque année. Donc, ça nous interroge sur notre conscience et faire attention aux mots qu'on emploie. Et l'autre chose à laquelle j'invite les élèves de réfléchir, c'est que, effectivement, nous ne pouvons que condamner l'agression d'un pays sur un autre, puisque c'est une transgression du droit international. On n'a pas le droit d'envahir son voisin, même si on a des griefs contre lui. Et que quand vous avez des frontières internationalement reconnues, bah vous n'avez pas le droit de les franchir, premier élément. Deuxième élément, il y a le jus ad bellum, le droit à la guerre. Il y a des casus belli, un ultimatum, etc. Il y a des règles à suivre lorsqu'on déclenche un conflit, et que ce conflit doit s'appuyer sur un casus belli reconnu, etc. Et donc là, bien sûr, tout le monde de s'offusquer du caractère litigieux, voire fallacieux des arguments de Vladimir Poutine. Sauf que, moi je leur dis, c'est bien, vous en offusquez, c'est pas bien, etc. Mais je dis, bon, vous étiez trop jeune, donc on peut pas vous lancer la pierre. Mais en 2003, quand de façon éhontée, Colin Powell ment à la tribune de l'ONU, et où il déclenche un conflit international.
En affirmant à la tribune de l'ONU que l'Irak était en possession d'armes de destruction massive de l'anthrax. Il agitait une petite fiole, voilà, et c'est sur ce mensonge qu'une guerre contre l'Irak, une nouvelle guerre contre l'Irak a été déclenchée par les États-Unis.
Et je dis là, mais quel a été le comportement de l'opinion publique française, des médias français? Est-ce qu'ils ont été aussi unanimes dans la condamnation? Et quand la France a déclenché une opération militaire en Libye, en 2011, dans le but de liquider un régime, certes, qui n'avait rien de sympathique. On n'a aucune sympathie pour Saddam Hussein en Irak ou pour Kadhafi en Libye. Mais on est intervenu militairement dans un conflit civil où on a porté appui à un groupe en liquidant un régime politique et en balançant bombes, missiles, etc. Et on ne s'est pas interrogé sur les gens qui étaient en dessous.
Donc ça, c'était sous le règne de Sarkozy qui déclenche cette guerre de, unilatéralement, en fait, en 2011, hein, sans consulter personne, ni Parlement, ni rien du tout. Du jour au lendemain, en fait, on apprenait à la radio que la France était en guerre contre la Libye. Waouh ! Le même Kadhafi, qui était reçu par le même Sarkozy une poignée d'années avant, avec tapis rouge et tout le tremblement, parce qu'il y avait bon espoir de vendre des armes, hein, au régime de Kadhafi. Il y a eu des histoires après aussi que Kadhafi aurait participé au financement de la campagne électorale de Sarkozy. Voilà, c'est pour ça que j'utilise un conditionnel. Mais pour parler d'un autre dictateur, je parle de Bachar el-Assad. Bachar el-Assad, reçu sous le règne de Sarkozy, un 14 juillet, lui aussi avec tapis rouge, pour assister au défilé du 14 juillet des armées françaises. Bon, et puis une poignée d'années après, ce Bachar el-Assad qu'on recevait avec tous les honneurs est d'un seul coup redevenu le tyran et l'épouvantable dictateur qu'il fallait abattre. Je passe par là, Cédric, parce que donc une fois de plus, je vais le dire crûment, Poutine est très certainement le salopard qu'on en dit, hein, assassin, KGB, mafieux, nana. Bon, bah, dirigeant aussi de son pays et veillant, j'allais dire à sa manière, sur les intérêts de son pays qui ne sont pas les miens. Moi, c'est ça que j'essaye de dire le plus diplomatiquement possible. Je dis attention aux propagandes de guerre, les amis. Et c'est vrai qu'on est dans des propagandes de guerre vis-à-vis des Russes dans les médias dominants depuis fort longtemps. Avec raison, enfin de toute évidence, voilà, Poutine a commis une agression innommable, condamnable. Mais Poutine n'est pas le seul salopard de la planète. Il y en a aussi que la France a soutenu à bout de bras et soutient encore à bout de bras. Enfin, je dis que c'est très bien de taper sur Poutine, mais ne sommes-nous pas nous-mêmes gouvernés aussi par des gens pas toujours recommandables et la France soutient des tyrans et des dictatures.
Au Tchad, là, par exemple, voilà, après la mort du président, on soutient le fils qui... Voilà, alors là, c'est vraiment le néocolonialisme à l'ancienne.
Il y a aussi l'affaire MBS, jeune monarque d'Arabie Saoudite, qui, je crois, a fait découper un opposant dans une ambassade. Bon, ça a été avéré. Or, la France vend des armements à ce pays.
Qui envoie des missiles à tour de bras sur le Yémen, où il y a une crise sanitaire et humaine absolument, mais catastrophique.
Au moment où je te parle, là, j'ai bien le sentiment que ce que je dis est scabreux, en fait. Enfin, tu vois, je serre le cul, là, en te parlant, parce que je me dis... d'abord, qui es-tu pour dire ça? Enfin, je veux dire, voilà, petit citoyen, petit lecteur du monde diplomatique, mais pour qui tu te prends? Mais j'essaye aussi d'attirer l'attention de mes amis, enfin, quand je discute un peu avec eux, en disant, oui, Poutine est bien ce qu'il est, ce qu'il commet est bien ce qu'il commet, un truc innommable et inqualifiable et condamnable. Mais je dis attention aux propagandes de guerre et à ce concept des gentils et des méchants. On n'est pas les gentils, il n'est pas que le méchant. Enfin...
Mais profondément, cette crise, elle nous met face à nos contradictions. Elle nous interroge sur notre capacité à mettre en parallèle des faits. Les gens qui fuient les combats en Ukraine sont des réfugiés. Les gens qui fuient les combats au Congo, en Érythrée, etc., sont des réfugiés à égalité. Et c'est pas qu'ils sont noirs, qu'ils sont différents. Nous, on parle de migrants et de réfugiés. Ça nous interroge, cette crise, sur les conflits et la nature des conflits. La guerre qu'est en train de mener la Russie en Ukraine est une guerre illégale et innommable. Comme celle des Américains en Irak, comme celle que la France a déclenchée en Libye. Et donc, on doit avoir la même indignation pour les trois. On ne doit pas faire, vous voyez, des jugements de valeur en disant « Oh oui, mais en Libye, on défend la liberté, nanani, nanana, on défend la liberté, on défend je ne sais pas quoi. » Non, ce sont des guerres innommables dans lesquelles, in fine, ça se finit toujours de la même façon. Qui écope ? C'est le petit gars qui est en dessous. Qu'il soit libyen, irakien, ukrainien, syrien, tout ce que vous voulez, il s'en prend plein la gueule alors qu'il n'a rien demandé à personne. Et... quand je vois des gens comme BHL, c'est quand même le roi des cons, quoi. C'est quand même un mec qui a poussé tous les conflits possibles en Libye. Oui, c'est formidable, on fait la guerre pour la démocratie, etc. Et qui, là, va faire le concert des pleureuses en disant « Oh mon Dieu, les pauvres Ukrainiens, etc. » Un peu de cohérence, quoi. Et donc, comme j'ai condamné la guerre des Américains en Irak, comme j'ai condamné la guerre de la France en Libye, bah je condamne sans ambiguïté la guerre de Poutine et de la Russie en Ukraine. Parce que c'est de la cohérence intellectuelle. Et dire, ah oui, mais là, c'est pas pareil que là. Et papa. Si, c'est pareil. C'est pareil. Et donc, je leur dis... attention, effectivement, à ce concert, vous voyez, où tous les médias, tout d'un coup, ah mon Dieu, il y a les méchants, il y a les gentils, etc., sans s'interroger sur les autres conflits.
Croupissent ces machines de guerre dans les hangars de la mémoire. Basta, cessons de croiser le fer. Plus de boucherie, plus d'abattoir. Maintenant on va baisser le store. Laissez la connerie au vestiaire. Y'a plus d'amateurs pour ce sport. Plus personne sous les bannières. Pourquoi pas la belle utopie? Faites un bilan professionnel. Une reconversion réussie. Faites-vous la paire, faites-vous la belle, engagez-vous dans le parti qui déclare la guerre à la guerre. Sortez-vous le nez du kaki. Il y a des tonnes, il y a des tonnes de choses à faire avec votre matos et votre génie pour remettre en état la terre. Rangez tous vos affreux joujoux, faites tourner le calumet. Et foutez-nous la paix.
Dans cette émission, tous les ans, depuis des années maintenant, au 11 novembre, on fait une émission sur 14-18. Bien entendu, comparaison n'est pas raison, 2022 n'est pas 1914, on est bien d'accord. Ce qui me tient simplement à cœur quand je discute avec des amis, c'est dire attention aux propagandes de guerre, attention à ces ennemis héréditaires, à ces gens dont le sang devrait abreuver nos sillons, attention aux gentils et aux méchants, le monde est plus complexe. Condamnons ce qui est condamnable, bien entendu, mais ne rentrons pas dans des logiciels primaires. Bon, il y a un siècle, l'ennemi héréditaire, c'était le Schleu, le Bosch, le casque à pointe, le vert de gris, le tout ce que tu veux, bon machin. Aujourd'hui, ça change. Et que n'a-t-on pleuré sur 1914, 1918, première grande boucherie mondiale, bon, tout ça pour que finalement la France et l'Allemagne se donnent la main par la suite. Bon. Moi, c'est simplement ce que j'essaye de pondérer un petit peu dans les quelques échanges que je peux avoir avec ça, parce que je me rends compte que c'est un sujet tellement sensible que, waouh, faut y aller. Mais attention, on n'est pas dans un monde où il y a des gentils et des méchants.
Et d'autant plus que c'est un discours qui est un petit peu vain, parce que c'est bien beau de dénoncer les méchants, etc., mais quelles sont nos capacités d'action? Dire ceux qui dénoncent le régime de Poutine, etc., il faut condamner. Les mecs, est-ce que vous êtes prêts à prendre un fusil et à y aller, vous? Moi non. Je ne vais pas pousser à la guerre en disant ouais, allez les gars, on y va, etc. Écoutez, si vous avez le courage d'y aller pour aller défendre l'Ukraine, j'ai pas le courage d'y aller. Enfin, donc ces discours, voyez, un peu belliqueux, etc., ils sont gênants. Il faut voir les marges de manœuvre et les possibilités qu'on a pour agir dans le conflit, qui sont des sanctions financières, économiques, etc. Mais on voit bien que militairement, de toute façon, on ne peut rien faire. Enfin, c'est évident. Militairement, on ne peut rien faire. Je m'interroge, par exemple, sur la fourniture d'armes qui est prévue à l'Ukraine. De la part de la France et de l'Union Européenne, là, il y a des choses qui ont été annoncées. D'abord, savoir si c'est très utile d'un point de vue purement militaire, parce que l'OTAN les a cheminés, et puis une arme, voilà, c'est pas un bilboquet. On n'apprend pas à s'en servir. Tiens, là, une arme, ah, super, c'est bon, je sais m'en servir. En termes d'efficacité, je suis pas certain, enfin, je suis pas expert militaire, mais je suis pas sûr que ce soit forcément très utile. Et deuxième élément, est-ce que c'est pas se mettre dans une position dans laquelle ensuite on n'est plus capable de parler à Poutine? Parce que, qu'on le veuille ou non, on va être obligé de lui parler, hein. Cette guerre contre l'Ukraine, il va la gagner. Ça va peut-être mettre du temps, peut-être qu'il va être pris dans un conflit de guérilla, j'en sais rien. Peut-être qu'il va plier ça en 8 jours, peut-être qu'il va mettre 1 mois, 2 mois, peut-être qu'après avoir une fois établi sa domination, peut-être qu'il va être confronté à des phénomènes de guérilla, de résistance, etc. J'en sais rien, mais on va être obligé de lui parler. Quoi qu'il en soit, il faut qu'on lui parle. En diplomatie, on fait de la diplomatie pas avec des amis, on fait de la diplomatie aussi avec des gens avec qui on n'est pas d'accord, et on va devoir parler à Poutine. Et si on commence à rentrer dans le cycle de fournir des armes, etc., je suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen de lui parler après.
Je reviens juste sur cette histoire de ils vont écraser les Ukrainiens. Bon, c'est peut-être ce qu'on s'est dit quand les États-Unis sont intervenus dans ce qui était la guerre d'Indochine et qui est devenue la guerre du Vietnam, hein, la plus grande puissance du monde avec ses avions, ses bombardiers, ses machins. Bon, en fait, les Vietnams sont quand même venus à bout. Ça veut dire quoi, en fait, gagner une guerre en 2003, les Américains ont écrasé les forces irakiennes, leurs tanks, leurs trucs. Mais enfin, bon, en fait, la guerre ne s'est jamais arrêtée. Elle a juste pris une autre forme, effectivement, de guérilla. Donc, bon, qu'est-ce que ça veut dire gagner une guerre dans ce contexte-ci ?
Ça veut dire avoir l'assentiment de la population. Or là, très clairement, l'assentiment de la population qui habite l'Ukraine vis-à-vis de la Russie, il peut l'obtenir dans les régions majoritairement russophones. Et encore, il y a des gens, c'est pas parce qu'ils sont russophones qu'ils seront pour l'annexion. Et il va être confronté à une opposition sourde qui pourra prendre des formes extrêmement variées. Une opposition sourde à son autorité. La majorité des Ukrainiens ne veulent pas de la Russie. Alors, il y en a qui vont s'enfuir, qui vont aller dans d'autres pays, il y en a d'autres qui vont peut-être résister activement, d'autres vont résister par la pensée, en fait, des formes de résistance qu'on a déjà connues dans notre histoire. Des formes extrêmement variées. La résistance armée, ça ne concernera qu'une minorité, comme en France pendant la Seconde Guerre mondiale, seule une minorité de la population. Mais il y aura une espèce d'opposition sourde qui fait que je ne sais pas ce qu'il a gagné dans le truc. Enfin, j'avoue que je m'interroge. Qu'est-ce qu'il a à gagner dans le truc? Des plaines d'Ukraine, 3 mines au Donbass, des ports sur la mer Noire pour faire des ronds dans l'eau dans la mer Noire, super. Parce que de toute façon, il ne peut pas les sortir dans les détroits. Donc voilà, il va faire des ronds dans l'eau au long des côtes roumaines et turques, super. Je ne sais pas ce qu'il a gagné dans le truc, quoi. Honnêtement, je m'interroge, j'en sais rien.
C'est le calcul qu'a fait Margaret Thatcher en 1982 quand elle a envoyé l'armée britannique combattre les Argentins pour la guerre des Malouines. Petit rocher perdu au large de l'Argentine que les Argentins avaient voulu reprendre. Voilà, en général, quand tu veux fédérer le peuple derrière toi, c'est soit tu gagnes la Coupe du Monde de foot et tes sondages remontent, et quand il n'y a pas de foot, il y a la guerre, quoi. Au début des années 80, Thatcher allait perdre les élections. Elle a fait la guerre aux Argentins et a redoré son blouson. Et après cette bonne guerre et la grosse pâtée que les Britanniques ont mis aux Argentins, les sondages de Thatcher sont remontés et puis elle a été réélue.
Ça a eu un avantage, c'est que ça a fait chuter la dictature argentine. Ça a été le seul intérêt.
Certes, on peut avoir dans nos dirigeants des gens finalement aussi qui sont pas fréquentables, mais enfin la France n'est pas la Russie de Poutine. Première démonstration de ce que je suis en train de dire, c'est qu'on est en train de réaliser cette émission, qu'elle est diffusée sur la radio que vous êtes en train d'écouter, et que nous, encore citoyens français, on peut se permettre de poser un regard critique sur ce que font nos dirigeants. Quand on est français, apparemment, on a quand même un peu plus de droits d'expression que les Russes. c'est compliqué de le nier, là. Hein.
Là, voilà, c'est QFD. Pour ceux qui veulent faire des parallèles comme Laurent Wauquiez qui a traité Emmanuel Macron de dictateur, on sait dans cette émission ce qu'on pense d'Emmanuel Macron, mais là c'est complètement déconnecté de toute forme de réalité. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut être un petit peu crédible, qu'on soit critique vis-à-vis des médias, qu'ils soient des médias d'État ou des médias privés, mais on n'est pas en dictature en France. qu'on puisse s'inquiéter de dérives de la presse, de concentration dans la presse, d'intervention de gens comme Bolloré. Oui, c'est très inquiétant. Hein. La liberté et la démocratie, c'est toujours des choses fragiles et on peut s'inquiéter d'un certain nombre de dérives. Le fait que, par exemple, la campagne, évidemment, risque d'être très écourtée du fait du climat et qu'on n'ait pas un vrai débat démocratique, ça interroge sur notre capacité à faire la démocratie, mais nous sommes en démocratie.
Cédric, je te remercie d'être venu nous voir, me voir. Peut-être que dans les propos qu'on aura tenus aujourd'hui à ce micro, il y a des choses avec lesquelles vous ne serez pas d'accord. Vous êtes invité à y réagir en passant par notre site, polemix.lavoixoff.com. Tu es professeur d'histoire-géographie, titulaire de ton agrégation, tu enseignes, c'est tout ce qu'on peut proposer aux auditeurs comme caution scientifique, si j'ose dire. Mais au-delà de ces titres et de ces choses-là, amis et amis IES, auditeurs, auditrices, on n'était pas là en haut d'un podium pour vous asséner donner une conférence. On est deux potes, deux êtres humains qui, comme vous, nous demandons ce qui se passe. Et en aucun cas, on prétend avoir la vérité suprême ou je sais pas quoi. On n'en sait pas plus que vous, les amis. On a les boules comme vous. Et je crois qu'on fait ce qu'on peut. Je sais que le concept d'honnêteté intellectuelle est un truc très fluctuant, très vaporeux, mais c'est ce qu'on essaye de faire. Et si on a dit des conneries ou des trucs qui vous déplaisent, bien entendu, dites-le nous en passant par le site, s'il vous plaît. Cédric, merci à toi d'être venu.
Merci beaucoup. À la prochaine.
Et foutez-nous la paix.
Sommes-nous vraiment en démocratie avec ces institutions d'une 5e République accouchées par De Gaulle suite au coup d'État de 1958? Mais il est certain que nous jouissons d'une liberté d'expression qui nous permet maintenant de retrouver la remarque sur les médias de Philippe Arnault.
Radio Paris est mort, Radio Paris est mort. Radio Paris est mort, Radio Paris est mort.
Salut Philippe.
Bonjour.
C'est l'heure de ta remarque sur les médias. À part qu'aujourd'hui c'est un petit peu spécial, c'est remarque in absentia. Mmh. C'est-à-dire que tu vas non pas commenter ce qui a été dit dans les médias dominants, mais ce qui n'a pas été dit.
Oui, alors j'ai fait cette chronique le 28 février et j'y disais c'est le 5e jour de l'attaque russe contre l'Ukraine et malgré les informations fragmentaires sur les opérations, malgré l'ignorance des objectifs et de la stratégie russe, tout se passe selon ce que rapportent les médias, par exemple France 2, comme si cette stratégie était en voie d'échouer. En effet, compte tenu de la disproportion des forces, on pouvait s'attendre à ce que les grandes villes, Kiev, Kharkiv, fussent rapidement prises. Or, aussi bien dans ces deux secteurs que dans les autres fronts, le sud et l'est, les forces russes marquent le pas. On voit des chars, des camions incendiés ou détruits et des soldats russes tués qui semblent être des conscrits peu expérimentés et non des militaires aguerris comme les Spetsnaz. En pareille circonstance, c'est-à-dire une grosse disproportion de force, celui qui ne gagne pas perd et celui qui ne perd pas gagne. Or, il est curieux qu'à cette occasion, les médias n'aient pas opéré un rapprochement avec un autre conflit d'allure semblable. En octobre 1939, donc un mois après la déclaration de guerre de la France et du Royaume-Uni à l'Allemagne, l'URSS, qui pressentait un danger de guerre, demanda à la Finlande des rectifications de frontières pour offrir un glacis protecteur à Leningrad qui, en cas d'occupation de la Finlande par un pays ennemi, se trouverait sous le feu de ses canons. Et les Finlandais ils refusaient. Alors je crois que les Russes avaient proposé, ils avaient dit, bon, vous nous donnez un morceau de terrain et on vous en donne un autre un petit peu plus loin en compensation. Les Finlandais refusent. Et les Russes, à ce moment-là, ils passent à l'attaque. Or, malgré la disproportion énorme des forces sur le papier, 400 000 soviétiques contre 130 000 Finlandais, ces derniers ont mis en échec l'armée rouge jusqu'au début de janvier 40. Ils ont infligé des pertes énormes. 127 000 tués soviétiques contre 27 000 tués finlandais et 3500 blindés détruits, ce qui est énorme. Et le 7 janvier, les Russes changent de général, ils changent de stratégie et ils enfoncent le front finlandais. Ça a duré jusqu'au 13 mars et les Finlandais ont dû céder des morceaux de leur pays. Pour la petite histoire, pendant la guerre, les Finlandais ont combattu aux côtés des Allemands. Bon, mais globalement, à la fin de la guerre, du fait que les Allemands étaient vaincus, les Finlandais auraient pu s'attendre au pire, bon, occupation, bon, déportation, tout ça. Relativement, ça ne s'est pas trop mal passé pour eux. Et quel rapprochement on peut opérer avec l'actuelle guerre d'Ukraine? C'est l'affrontement entre un grand pays et un plus petit pays aux forces disproportionnées. Dans les deux cas, une résistance acharnée et fructueuse, au moins pendant un mois pour la Finlande, du plus petit pays. Mais au demeurant, l'issue finale de la guerre russo-finlandaise, c'est-à-dire une défaite de la Finlande, mesurée, une défaite mesurée, ne préjuge en rien de l'issue du présent conflit. L'histoire ne se répète pas nécessairement et comparaison n'est pas raison. Mais il arrive des fois que, bon, par exemple, la France à Sedan par l'Allemagne a été battue deux fois. En 1870 et en 1940. Les impériaux catholiques, pendant la guerre de 30 ans, ont été battus deux fois à Breitenfeld. Bon. Ensuite, la parenté des raisons invoquées par la partie russe, en 1939 comme en 2022, pour passer à l'attaque. Et les Russes, les Soviétiques, en 1939, ils voulaient élargir leur glacis pour mettre Leningrad à l'abri d'éventuels canons ennemis. Ils avaient même réclamé aux Finlandais la location pour 30 ans du port de Hanko, qui est à l'entrée du golfe de Finlande, pour interdire le golfe de Finlande à tout navire ennemi. Et en 2022, la crainte des Russes est que l'Ukraine n'adhère à l'OTAN. Donc dans les deux cas, c'est, disons, une guerre préventive pour que leur pays se trouve pas trop près d'un pays potentiellement ennemi. Une ressemblance certes mineure entre 1939 et 2022 est qu'en décembre 1939, Staline avait reconnu une république démocratique finlandaise ou gouvernement de Terry Jokki formé d'une étroite bande de terre finlandaise conquise par l'armée rouge avec un gouvernement fantoche. De même, en février 2022, Vladimir Poutine a reconnu les deux républiques russophones autoproclamées du Donbass. Autre ressemblance, plus anecdotique, le fait que le dirigeant finlandais résistant à l'URSS en 39-40, c'était le maréchal Carl Gustav Mannerheim, qui, malgré son nom allemand, était suédois d'origine, mais surtout qui était un général de l'armée russe, qui s'était battu dans la guerre russo-japonaise et qui s'était battu contre les Austro-Hongrois pendant la guerre de 14-18. Et de la même façon, l'actuel président ukrainien Volodymyr Zelensky, c'est non pas un Ukrainien, mais c'est un Ukrainien russophone, c'est-à-dire c'est le russe sa première langue. Et paradoxalement, les deux hommes d'État résistant à la Russie sont tous les deux issus de son sein. Il y a eu une autre chose, c'est qu'en 1939-40, l'opinion publique mondiale, en France, en Angleterre, en Amérique, au Canada, en Suède, au Danemark, a pris parti en faveur de la Finlande. C'était le pauvre petit pays attaqué par la méchante Union soviétique. Et en 2022, l'opinion publique de tous les pays occidentaux prend parti pour l'Ukraine. L'opinion publique de tous les pays d'Europe, du monde en général, d'Europe, d'Amérique du Nord, a pris parti pour l'Ukraine. Et de même façon, on aboutit à des sanctions. En 1939, l'URSS a été exclue de la SDN.
SDN, Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU.
L'ancêtre de l'ONU. Là, l'URSS est exclue de plein d'organisations politiques, d'organisations économiques, par exemple bancaires, d'organisations culturelles et d'organisations sportives. Il y a eu une ressemblance, un petit peu une ressemblance stratégique. En 1940, les Français et les Anglais, ils ont débarqué à Narvik. Alors, on avait dit qu'ils avaient l'intention de traverser la Norvège et la Suède pour venir en aide aux Finlandais. Bon, mais ça ne s'est pas passé. Ils se sont battus simplement avec les Allemands. J'arrête là la comparaison parce que l'autre élément qui caractérise la guerre russo-finlandaise de 1939, c'est qu'elle a été suivie par la guerre générale, la guerre qui n'avait lieu qu'avec la Pologne. Là, ça a été avec la France, l'Angleterre, la Belgique, la Hollande, le Danemark, tous les pays. Et j'espère n'avoir pas du tout adressé un septième point de ressemblance.
Voilà les amis, c'est ici que prend fin cette émission bricolée à la va-vite. L'Ukraine, André nous en reparlera prochainement. En attendant, vous pouvez réécouter plein d'autres émissions sur notre site, polémique-c'est-la-voix-off.com, où il est aussi possible de s'abonner au podcast. Avant qu'on se retrouve très prochainement sur cette même antenne, ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut!
terminée.
Les petits comptes alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
Radio G. www.radio-g.fr. Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodessavoirs.fr. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un